Ma radio sans pub.
Palestine ici, Palestine là-bas. Heureux de vous retrouver au micro Romain Bouclazreg, animateur de l'émission. Alors, ce soir, notre émission reprend après une longue interruption pour revenir avec vous et pour parler de la situation en Palestine. Alors, pour revenir un peu sur l'actualité internationale et locale, puisque à Villefranche, samedi 20 janvier, il y a eu lieu une manifestation en soutien et en solidarité avec le peuple palestinien. À l'initiative du collectif 69 Palestine-Villefranche, dont ce collectif est constitué de plusieurs organisations politiques, associatives, mais aussi des individus, des hommes, des femmes. Pour cela, un appel et un texte a été lu ce jour-là, et je vais vous en faire part pour éventuellement le partager avec vous. Nous manifestons aujourd'hui notre solidarité avec le peuple palestinien. 3 mois de massacre contre la population de Gaza, c'est un crime contre toute l'humanité qui continue sous nos yeux. C'est une guerre atroce et criminelle que l'État d'Israël mène depuis plus de 3 mois contre la population palestinienne de Gaza. Ce sont aujourd'hui 23 000 morts qui ont été répertoriés, dont plus de 70% de femmes et d'enfants. 59 000 blessés, 8 000 disparus. Des centaines de familles ont été anéanties, plus de 100 journalistes et plus de 300 médecins et travailleurs de la santé ont été tués. 85% de la population a été forcée de quitter son logement. La population est dans une insécurité totale, entassée dans des tentes et des abris de fortune, soumise à des bombardements incessants et privée d'eau, de nourriture, de médicaments, d'électricité et de carburant. De plus en plus d'organisations et d'experts internationaux font état d'un génocide en cours. La bande de Gaza est tout simplement devenue inhabitable. C'est un lieu de mort et de désespoir. L'intention d'en expulser la population palestinienne est aujourd'hui revendiquée publiquement par plusieurs ministres du gouvernement israélien. En Cisjordanie, sous état de siège, la population palestinienne subit les attaques conjuguées de l'armée et des colons, qui ont fait plus de 330 morts depuis le 7 octobre. Le processus de colonisation connaît une accélération particulièrement inquiétante avec 9 nouvelles colonies sauvages sur les 3 derniers mois et la destruction ciblée des cultures palestiniennes. Nous dénonçons ce processus de nettoyage ethnique. Près de 10 000 Palestiniens sont détenus par Israël dans des conditions inhumaines et au mépris du droit international. Il est plus que temps d'agir. Nous dénonçons la complicité active des États-Unis qui financent et livrent armes et munitions à Israël et bloquent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un cessez-le-feu. Nous dénonçons l'attitude ambiguë des autorités françaises qui ont soutenu cette agression en se prononçant pour une trêve humanitaire sans exiger un cessez-le-feu immédiat. Nous exigeons un cessez-le-feu total et permanent pour la bande de Gaza, l'arrêt définitif des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés de population. Nous exigeons l'entrée immédiate et sans restriction de l'aide humanitaire d'urgence et la levée durable du blocus de la bande de Gaza. Nous exigeons que la France et l'Union européenne posent des actes en arrêtant immédiatement toute coopération militaire et sécuritaire avec l'État d'Israël, en prenant des sanctions contre celui-ci, dont la suppression de l'accord d'association Union européenne-Israël. Nous demandons aux autorités françaises de s'associer à la démarche de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien et notamment de son droit à l'autodétermination. Elle implique le démantèlement des colonies et la fin de l'occupation israélienne, ainsi que le respect de l'ensemble des résolutions de l'ONU, y compris la résolution 194 qui prévoit le droit au retour des réfugiés. Donc voilà, je voulais vous faire part du texte qui a été lu samedi matin au départ de la manifestation qui a eu lieu à Villefranche, qui est partie de la place de la Libération, pour finir au jardin de la mairie. Donc, pour revenir un peu sur l'initiative du collectif, le collectif met en place un peu toutes les deux semaines, trois semaines, hein, soit des manifestations, soit des rassemblements. Donc, vous aurez compris tout ce que l'actualité est dense, c'est que la population, les citoyens de Villefranche ne peuvent pas rester indifférents. Nous l'avons scandé à plusieurs fois dans nos slogans. Gaza, Villefranche est avec toi. Gaza, les Caladois et les Caladois sont avec toi. Donc sans plus tarder, on va faire un petit moment culturel et je vous laisse écouter un petit morceau du chanteur PNL et qui nous intitule Gaza.
Gaza.
C'est le feu, je tire une doigt. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza. À Gaza. L'horizon est bleu, oui, je kiffe là. Nos réseaux expriment la liberté. La paix, mon frère, ma soeur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Enfin, ces malades sont égarés. Mon putain de sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Tous ces morts ont dû déposer quelques fleurs. À Gaza. À Gaza. À Gaza.
Ce morceau de PNL intitulé Gaza. Je reviens avec vous maintenant pour un volet juridique, puisque le 11 janvier a eu lieu aux yeux du monde entier, à La Haye, le procès du génocide contre Israël qui s'ouvrait à la Cour internationale de justice. À La Haye, ce jeudi matin, quand débuteront les audiences de la Cour internationale de justice dans le procès pour génocide intenté contre Israël par l'Afrique du Sud. Les deux jours de l'audience historique devront décider si la Cour va imposer des mesures provisoires comme ordonner un cessez-le-feu, tout en considérant l'affaire entière, ce qui pourrait prendre des années. Et là, c'est un spécialiste, Michael Ling, qui prend la parole et qui va justement répondre à certaines questions, certaines interrogations concernant ce procès. Alors, pour rappeler qui est Michael Ling, c'est un professeur de droit à la Western University de Londres, de London, dans l'Ontario. Et il a été rapporteur autrefois spécial des Nations Unies pour les droits humains dans les territoires palestiniens occupés entre 2016 et 2022. Donc, pour rappeler qu'est-ce que la Cour internationale de justice? La Cour internationale de justice est le principal corps judiciaire des Nations Unies et ses racines remontent à plus d'un siècle. La Cour internationale de justice tranche généralement dans des disputes entre États et elle peut également émettre des avis consultatifs à la requête de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, il ne faut pas confondre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale qu'on appelle la CPI, qui siège également à La Haye. Créée en 2002, la CPI traite des affaires criminelles contre des individus pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La CPI a subi des critiques croissantes pour son inaction au sujet de la Palestine. Et c'est la raison pour laquelle bien des gens espèrent que la Cour internationale de justice s'avérera un forum plus solide et plus impartial en faveur de la justice. L'Afrique du Sud invoque la Convention sur le génocide. Invoquant la Convention de 1948 sur le génocide, l'Afrique du Sud a introduit sa demande à la Cour internationale de justice en décembre, concernant l'agression israélienne contre Gaza qui a suivi l'offensive du 7 octobre des organisations de résistance palestinienne contre les bases militaires et colonies israéliennes. La plainte de l'Afrique du Sud dit que les actions d'Israël sont de caractère génocidaire parce qu'elles sont destinées à provoquer la destruction d'une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien dans la bande de Gaza. La politique d'Israël comprend tuer des Palestiniens à Gaza, leur causer de graves préjudices physiques et mentaux, leur infliger des conditions de vie calculées en vue de provoquer leur destruction physique. Comme le dit la plainte sud-africaine, les actes sont tout attribuables à Israël, qui n'a rien fait pour empêcher le génocide, et qui commet un génocide en violation manifeste de la Convention sur les génocides, ajoute la plainte. Elle prétend qu'Israël viole également la Convention en ne faisant rien pour empêcher ou punir l'incitation directe et publique au génocide par d'importants dirigeants israéliens et autres. De même, elle décrit en détail l'horrible tribut israélien en tués et actes de destruction délibérés à Gaza. La plainte de l'Afrique du Sud comprend de nombreuses pages de déclarations par des dirigeants israéliens et officiers de l'armée manifestement clairement leur intention génocidaire. Ces déclarations d'intention, lorsqu'elles sont combinées avec le niveau de tuerie, de mutilation, de déportation et de destruction sur le terrain, ainsi qu'avec le siège, sont la preuve qu'un génocide en cours et qui se poursuit, affirme l'Afrique du Sud. Les questions clés, voici un résumé de certaines des questions clés que nous avons discutées, que Michael Ling a répondu. Quelles sont les mesures provisoires demandées par l'Afrique du Sud ? Les mesures provisoires consistent en une ordonnance d'urgence en vue de geler la situation, en attendant l'issue de l'affaire, ce qui pourrait prendre des années. C'est similaire à une ordonnance ou injonction de la Cour dans un tribunal national. L'Afrique du Sud demande à la Cour d'ordonner à Israël de cesser de tuer et de causer de graves préjudices mentaux et physiques aux Palestiniens à Gaza, de cesser d'infliger délibérément des conditions de vie calculées pour provoquer leur destruction physique en tant que groupe, et autres mesures ainsi que d'empêcher et punir toute incitation au génocide. En novembre 2019, par exemple, la Gambie a introduit un dossier de génocide contre le Myanmar à propos de ses crimes contre le peuple Rohingya. En janvier 2020, la Cour internationale de justice a ordonné des mesures provisoires semblables à celles que demande l'Afrique du Sud contre Israël. Qui sont les juges ? La Cour est constituée de 15 juges de pays différents, élus pour des mandats de 9 ans par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU. En outre, l'Afrique du Sud et Israël peuvent désigner chacun un juge supplémentaire. La Cour agira-t-elle honnêtement ou en s'appuyant sur des considérations politiques ? Alors que les considérations d'ordre politique ne peuvent jamais être exclues, Michael Ling explique qu'il y a tout lieu d'être optimiste et de s'attendre que la Cour tranche tel des juges impartiaux en s'appuyant sur la loi et sur les faits qui lui sont confrontés. Il fait remarquer que la Cour internationale de justice, bien qu'avec un autre panel de juges, avait sorti un avis consultatif historique en 2004 en décidant que le mur d'Israël et autres pratiques en Cisjordanie occupée étaient illégales. Il fait également remarquer que pour l'instant, la Cour étudie un autre avis consultatif sur la question de savoir si l'occupation militaire prolongée de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et la bande de Gaza est illégale. En 2019, la Cour a sorti un avis consultatif disant que le Royaume-Uni occupait illégalement l'archipel des Chagos dans l'océan Indien, dont les Britanniques ont expulsé les habitants autochtones afin que les États-Unis puissent utiliser leur terre comme base militaire. La Cour a estimé que le Royaume-Uni a l'obligation de mettre un terme le plus rapidement possible à son administration de l'archipel des Chagos et de le restituer à l'île Maurice. Ces décisions, affirme Ling, constituent de bonnes raisons de croire que la Cour peut prendre son mandat au sérieux. La décision de la Cour peut-elle être appliquée ? Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. La décision de la Cour peut-elle être appliquée ? Il n'existe pas de force indépendante de police internationale qui pourrait faire appliquer les décisions de la Cour internationale de justice, même si elles sont juridiquement contraignantes. Mais une décision contre Israël peut avoir des répercussions internationales sérieuses pour Israël. Les lois internationales ne libéreront pas la Palestine, fait remarquer Ling. Finalement, ça devrait être une tâche politique de la société civile internationale qui poussera la communauté internationale à œuvrer avec les Palestiniens qui combattent l'occupation et le déni de leurs droits. Il ajoute toutefois que les lois internationales, combinées avec la détermination internationale, peuvent être un outil très important, parce que pour un pays chargé d'une présomption de génocide, même admise provisoirement par une cour importante comme la Cour internationale de justice, cela pourrait provoquer de grands dégâts politiques. Le dossier de l'Afrique du Sud est-il solide ? C'est un dossier extraordinaire de défense juridique que celui qu'ont constitué les juristes opérant pour l'Afrique du Sud, affirme Ling à propos des 84 pages de la plainte de l'Afrique du Sud. C'est le meilleur document isolé qui soit disponible à propos de ce qu'a fait Israël ces trois derniers mois et accessible aux personnes qui ne sont pas des juristes, ajoute Ling. C'est un document extraordinaire et la Cour va devoir le prendre au sérieux. C'est une opinion partagée par d'autres observateurs. Le spécialiste en sciences politiques de l'Université de Chicago, John Meyer Schemer, par exemple, écrit que la plainte constitue une superbe description de ce que fait Israël à Gaza. Elle est complète, rédigée avec savoir-faire, bien argumentée et très documentée. Comment Israël va-t-il se défendre ? Israël affiche souvent dédain et mépris à l'égard des décisions internationales avec son habitude de violer les résolutions de l'ONU. Mais il s'avère qu'il prend le dossier de la Cour internationale de justice très au sérieux, comme le prouve sa décision de désigner Aaron Barak, l'ancien président de sa Cour suprême, pour le représenter à La Haye. Ling s'attend qu'Israël essaye de prétendre que l'offensive du 7 octobre par la résistance palestinienne était une catastrophe pour les droits humains, et qu'il monte des photos et des vidéos à la Cour internationale de justice pour tenter de faire passer le fait que sa réponse à de telles prétendues atrocités était l'autodéfense et qu'elle était justifiée par les lois internationales. Il dit que ce sera un défi de taille pour Israël de prouver que ses actions ne sont pas génocidaires et que ce ne sont même pas des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. La Cour internationale de justice peut-elle imposer des obligations à d'autres pays, par exemple en leur commandant de ne pas fournir d'armes à Israël? Qu'il s'agisse ou pas de quelque chose de la compétence de la Cour, la demande de l'Afrique du Sud n'a pas introduit cette requête. Mais l'INC fait remarquer que si la Cour internationale de justice décrète des mesures provisoires fortes et décide qu'Israël a contre lui un dossier plausible auquel répondre du génocide, cela exercera des pressions accrues sur ces pays qui soutiennent Israël, que ce soit diplomatique ou de façon plus importante, militairement, pour être à même d'examiner la chose et d'y repenser. Une décision favorable pourrait également encourager le procès juridique intenté aux États-Unis par les Palestino-Américains et les organisations palestiniennes des droits humains contre le président John Biden et d'autres membres de son administration pour leur rôle dans le génocide perpétré par Israël. Et là, je vais terminer. Que pourrait faire la Cour après ces audiences? La Cour pourrait refuser complètement d'imposer des mesures provisoires ou elle pourrait aussi abonder dans le sens des demandes de l'Afrique du Sud. La troisième option, déclare Ling, c'est que la Cour pourrait essayer de jouer dans les deux camps en acceptant une partie ou la totalité de ce qu'a dit l'Afrique du Sud, mais en adressant aussi une ordonnance contre le Hamas et d'autres organisations armées palestiniennes, leur disant qu'elles ne devraient pas commettre de génocide. Ce serait soit la 2, soit la 3, je présume, dit Ling. Et je dis cela en tant que juriste qui tente de lire et de comprendre comment cette Cour s'y prend pour concrétiser sa pensée. Voilà, c'était un peu le débrief un peu de ce qui a été dit et ce qui a été, ce qu'on a vécu pendant les deux jours dans cette Cour internationale de justice qui s'est fait connaître justement par rapport à ce procès de génocide contre Israël. Et en dire encore un grand chapeau à l'Afrique du Sud qui a emboîté le pas aux sociétés dites occidentales qui n'ont rien fait pour les droits humains. Donc on va passer avec on va finir avec un moment musical et je vous laisse avec HK qui va nous chanter Palestine.
Qu'un vieux champ de blé, un village en péril, des familles menacées par des gens d'autres villes, d'un pays fortuné, enfant de Palestine, tu n'as rien demandé, mais au niveau victime, c'est toi le plus touché. Tu confirmes l'expression un peu trop imagée, caillou contre canon, c'est un combat truqueux. Au pied du mur des enfants jouent, oubliant les affres de la guerre. Derrière le mur un peuple vit dans une prison à ciel ouvert. Derrière le mur de la honte, par-delà les barrages, les chars et les checkpoints. Derrière les murs, loin des yeux, loin du cœur, il y a la Palestine. Quand des enfants tombent sous les bombes, c'est l'humanité qu'on assassine. Le monde entier est complice par sa complaisance et son silence. Tous les hommes naissent libres et gros, moi aussi j'y ai cru. La justice est la même pour tous, sauf pour les puissants. Le savais-tu, monsieur le juge, à les mains sales, à table de taille, c'est l'oncle Saint-Guy régal.
Tu pries pour HK, s'il vous plaît.
Du bruit
film. Et les enfants du monde entier, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur nationalité, quand ils sont opprimés.
Israël, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était tes enfants qui étaient innocents. Là je peux prendre parti, car je suis écœuré de voir ton peuple ainsi, si peu évoluer. Je n'écris que des lignes et périmer des mots. Cette chanson Palestine et mon droit de veto.
Dans le ciel de Gaza, les faucons rôdent jour et nuit, les hélicoptères passent et repassent, et notre futur s'obscurcit. Les colons chassent les colombes, ils ont envoyé les oiseaux de fer pour creuser notre tombe. Mais l'olivier est enraciné dans sa terre. Ouais, l'olivier est un arbre millénaire, l'olivier est toujours debout. Palestine ne sera jamais, jamais à genoux.
Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine et mon droit de veto. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine et notre droit de veto.
Du bruit pour la Palestine, s'il vous plaît.
Palestine là-bas. Et après avoir écouté HK, se termine notre émission. Mais avant de clôturer, deux petites annonces. La première, c'est samedi, rassemblement en solidarité avec la Palestine pour dire halte au massacre à Gaza, en Cisjordanie. Cessez-le-feu immédiat, halte au génocide. Ça, c'est pour le samedi 27 janvier à Lyon. Et le jeudi 1er février, à partir de 18h, place des Arts, rassemblement, pareil, avec les mêmes mots d'ordre, pour dire halte au génocide, cessez le feu, justice en Palestine. C'était l'émission Palestine ici, Palestine là-bas. À une autre émission, au mois prochain. Bye bye.